Vous écoutez les dossiers du FBI. Guet-apens mortel, deuxième partie.
Aux premières heures du 27 juillet 1977, des agents se rendirent chez Michael Polland, munis d'un mandat de perquisition. Polland déclara qu'il était vendeur de bijoux à son compte. Il déclara que le jour du vol, il était à Las Vegas pour y acheter des pierres précieuses. Les enquêteurs trouvèrent $12,000 en liquide chez lui. Michael déclara que c'était l'argent dont il se servait pour régler ses dépenses d'affaires. Les agents confisquèrent de nombreux reçus. L'un d'eux était celui de l'achat de 2 tasers vendus à un certain Mark Harris un mois avant le vol. Les agents fouillèrent ensuite la maison de Patrick, qui se trouvait non loin de celle de Michael. L'agent spécial Frank Murray, aujourd'hui à la retraite, lui demanda si lui et son frère Michael étaient allés au lac Mead. Patrick donna une toute autre version des faits que son frère.
Il a commencé par dire que son frère et lui étaient allés à la pêche. Il était très nerveux, extrêmement nerveux. Il a eu du mal à nous donner le détail de ses allées et venues, particulièrement le jour du crime et le lendemain.
La fouille de sa maison permit aux agents de trouver des armes et $16,000 en argent liquide. Le FBI confisqua les voitures que les deux frères possédaient avant le vol et les fit examiner. Les empreintes de pneus ne correspondaient pas à celles de la scène du crime. Il n'y avait d'ailleurs aucun lien entre ces véhicules et le crime. Des agents se rendirent ensuite chez l'armurier qui avait vendu les 2 tasers à un certain Mike Harris. Comme le reçu se trouvait chez Michael Polland, tout portait à croire qu'il avait utilisé ce faux nom. L'agent spécial Maury fouilla les bases de données publiques à la recherche de tous les individus nommés Mark Harris, âgés entre 25 et 40 ans.
Nous en avons identifié littéralement des centaines à partir du bureau d'immatriculation, du bottin téléphonique et d'autres sources d'informations qui nous étaient disponibles. Nous les avons retracés, sommes allés chez eux et les avons interrogés. Aucun d'entre eux n'avait quelque chose à voir avec ce crime.
Rien ne prouvait toutefois que Michael Polland utilisait ce pseudonyme, et il n'y avait aucune preuve matérielle de la culpabilité des deux frères dans ce crime. Au cours des 10 mois suivants, les enquêteurs examinèrent les dépenses des deux frères. Ces derniers firent l'acquisition d'une salle de jeu d'arcade. Même si le FBI disposait de quantités de preuves indirectes, tant qu'on ne trouverait pas des preuves formelles, il serait impossible de faire juger les frères Polland. L'agent Frank Maury cherchait désespérément des éléments pour consolider l'enquête.
Nous manquions lamentablement de preuves matérielles. Aucune empreinte digitale, aucun vrai témoin. Nous n'avions pas la moindre parcelle de preuves matérielles qui aurait pu démontrer l'implication de Michael et Patrick Polland dans ce crime.
L'agent porta alors son attention sur les 3 sacs de jus trouvés dans le lac Mead avec les corps des gardiens. Il visita 20 usines du secteur de Phoenix où les sacs auraient pu avoir été faits, mais aucun de ces manufacturiers ne reconnut une production de son usine.
Personne ne pouvait même me donner une idée de l'entreprise qui pouvait avoir fabriqué de tels sacs. On m'a même dit qu'ils venaient sans doute d'une autre ville. Ça m'a vraiment découragé.
Les agents se rendirent à la dernière manufacture de leur liste et montrèrent leurs sacs au propriétaire. Celui-ci affirma qu'il en était le fabricant. C'était un sac fait sur mesure par l'une de ses couturières. Il identifia également le tissu commandé spécialement d'une entreprise en Géorgie. Selon lui, il était sûrement le seul fabricant du secteur à faire ce type de sac sur commande.
Il m'a dit qu'il avait certainement conservé quelque chose dans ses papiers et qu'on pourrait retracer le reçu parce que le client était forcément entré chez lui pour commander ses sacs bien particuliers selon certaines dimensions spécifiques.
Au bureau du FBI de Phoenix, des agents se mirent à l'œuvre et examinèrent les centaines de reçus du manufacturier de sacs sur une période de plusieurs années. Après presque une semaine, ils trouvèrent enfin le reçu d'une commande de 3 sacs sur mesure, effectuée seulement un mois avant le vol. L'homme qui les avait achetés s'appelait Mark Harris. C'était le même nom que celui qui figurait sur le reçu des 2 tasers que les agents avaient trouvé quelques mois plus tôt lors de recherches chez Michael Portland. Il devenait de plus en plus évident que le nom de Mark Harris était le pseudonyme de Michael Portland. Le reçu d'achat de sacs de jute reliait cet individu aux 2 gardiens assassinés. De plus, le ciment trouvé dans la boîte du pick-up correspondait à celui qu'on avait prélevé sur les sacs. Le 17 mai 1978, après 1 an d'enquête, un grand jury fédéral produisit enfin les chefs d'inculpation de Michael et Patrick Portland pour vol et enlèvement. On pouvait déjà prévoir que les Portland ne se rendraient pas sans opposer de résistance. L'agent Chenoweth craignait une confrontation armée.
Tout devait être soigneusement planifié. Les Portland pouvaient avoir un comportement violent, comme le démontrait le sort qu'ils avaient réservé aux gardiens. Nous savions que nous devions éviter de les arrêter alors qu'ils se trouvaient dans la maison. Et il nous fallait les arrêter dans un autre endroit.
Les agents craignaient que les suspects ne se barricadent chez eux et qu'une fusillade s'ensuive quand ils auraient compris qu'on s'apprêtait à les arrêter. Les agents attendirent donc de voir apparaître Patrick Portland. Lorsqu'il sortit enfin de chez lui, il portait un étui à pistolet. Les policiers le prirent en filature jusqu'à ce qu'il trouve un endroit plus sécuritaire où il pourrait l'arrêter. La 2e équipe d'arrestation attendit que Michael Portland sorte d'une agence immobilière. Une fois à l'extérieur, il y aurait moins de risques qu'une balle perdue fasse une victime. Au même moment, la 1re équipe rattrapa Patrick devant l'arcade. Les agents l'interceptèrent juste avant qu'il n'y entre.
Nous nous sommes identifiés.
Agent spécial Frank Maury.
Il se souvenait de moi pour m'avoir vu à quelques reprises. Je lui ai alors dit que son heure était venue, que nous avions des mandats pour les arrêter tous les deux. Il s'est rendu sans problème. Il était armé. Il avait avec lui un magnum de calibre 44, en plus d'autres armes dans sa voiture, mais il n'a pas tenté de les utiliser.
Les agents appelèrent la 2e équipe pour les aviser de l'arrestation de Patrick. Michael Portland se trouvait dans l'agence immobilière depuis près de 45 minutes. Les agents craignaient qu'il n'ait appris la nouvelle de l'arrestation de son frère et qu'il se prépare à un affrontement. Ils décidèrent d'entrer dans l'immeuble. Le présumé meurtrier se rendit sans le moindre incident. Il refusa toutefois de répondre aux questions des policiers et pressa son frère de faire de même. Les 2 hommes n'avaient laissé aucune empreinte digitale sur les cadavres ou dans le fourgon. Par conséquent, Michael était sûr que le FBI ne pouvait rien contre eux.
Dans une affaire comme celle-ci, il y a une double juridiction.
Agent spécial Steven Chenoweth.
Le gouvernement fédéral d'abord, en raison du vol du fourgon, et les autorités de l'État d'un autre côté, compte tenu des meurtres.
Les autorités mirent au point la meilleure stratégie pour remporter la cause. Les procureurs de l'État et du fédéral décidèrent de se partager les actes d'accusation. Les Portland subirent un procès pour le vol et l'enlèvement devant une cour fédérale. Le 15 février 1979, sur la base de preuves indirectes, le jury trouva les 2 frères coupables de toutes les accusations qui pesaient contre eux. Ils furent condamnés à 100 ans de réclusion.
Les deux gardiens étaient des personnes qui travaillaient dur et qui étaient loyales envers leur entreprise. Ces deux hommes y travaillaient depuis 20 ans. Ils n'étaient qu'à quelques semaines de leur retraite. C'étaient aussi des hommes loyaux envers leur famille, des personnes bien, pratiquantes, des hommes qui avaient donné beaucoup de temps et consacré de nombreux efforts à leur entreprise. Et juste comme ils allaient enfin prendre leur retraite, ils ont été tués.
En novembre 1979, un jury de l'Arizona rendit son verdict, coupable de meurtre. Le juge condamna alors les deux frères à la peine de mort. Les Pollons firent appel de cette décision, forçant ainsi la Cour suprême de l'Arizona à trancher. Les preuves reliées à l'achat des tasers furent jugées irrecevables. On s'aperçut également que les membres du jury avaient discuté du procès fédéral, ce qui leur était interdit. Devant ces faits, les accusations d'homicide contre les deux frères durent être levées. Même si les agents avaient l'intime conviction que les frères avaient brutalement assassiné les deux gardiens, les procureurs de l'État refusaient d'ouvrir un nouveau procès. Malheureusement, en vertu des lois sur la libération conditionnelle à cette époque, Michael et Patrick pourraient tenter de recouvrer la liberté dans moins de 7 ans. En 1982, le procureur de l'Arizona refusa de tenir un autre procès pour homicide contre Michael et Patrick Poland. Il invoqua les coûts prohibitifs ajoutés à la difficulté d'établir leur culpabilité, compte tenu des preuves jugées irrecevables par la Cour suprême de l'Arizona. Le procureur fédéral Melvin McDonald fut outré d'apprendre que les frères Poland échapperaient à cette condamnation pour meurtre.
J'avais suivi l'affaire dans les médias et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je jouerais un rôle dans cette affaire. Mais en 1982, il est devenu évident qu'on allait abandonner ce cas à moins que quelqu'un n'intervienne. J'ai alors appelé le procureur du comté et j'ai offert mes services bénévolement.
Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un procureur fédéral exerça la fonction de procureur de l'État par intérim. McDonald devait donner un souffle nouveau à une affaire que plusieurs jugeaient impossible à soumettre à nouveau à la justice.
5 années s'étaient écoulées entre le crime et ce nouveau procès. Beaucoup de témoins étaient partis vivre dans d'autres États. Leurs souvenirs étaient de moins en moins précis. Or, nous devions reconstituer et présenter ce crime comme s'il venait de se produire, alors qu'en fait, il remontait à 5 ans.
Le procureur entendait établir d'une façon définitive le moment où l'on avait jeté les victimes dans le lac Mead et prouver qu'au même moment, les Poland étaient eux aussi au lac, de sorte qu'il n'y ait plus de doute sur leur implication dans cette affaire.
Un de nos problèmes, c'était qu'on avait découvert les victimes 6 semaines après le meurtre. La défense allait donc forcément rétorquer que les meurtriers avaient pu les y abandonner à n'importe quel moment.
De concert avec le FBI, le procureur trouva un indice dont on n'avait pas tenu compte lors des procès précédents. La montre du deuxième gardien de sécurité qui s'était arrêté à 22h37 le 26 mai. Or, les montres de ce modèle s'arrêtaient si on ne les bougeait pas pendant plus de 12 heures. Ainsi, la montre du gardien s'était arrêtée lorsque son bras avait atteint le fond du lac Mead.
Nous avons demandé à des experts en horlogerie de démonter la montre et de faire la preuve qu'elle ne s'était pas arrêtée à cause de dommages causés par infiltration d'eau. Résultat, aucune eau n'avait atteint le mécanisme qui permettait à la montre de se remonter d'elle-même. Nous sommes même allés interroger des experts en Suisse et leur avons demandé d'évaluer combien de temps prendrait une telle montre pour s'arrêter si son mécanisme n'avait pas été entretenu pendant 5 ans.
Les experts judiciaires se servirent ensuite de cette information pour déterminer le moment précis où le corps avait été jeté dans le lac. Leur estimation correspondait exactement au moment établi par les experts du FBI, c'est-à-dire celui où les Poland faisaient remorquer leur pick-up à Bonnelli Landing. Selon le procureur, les deux frères s'y étaient rendus pour se débarrasser des corps.
Pour créer un peu d'effet dramatique, j'ai dit au jury que Newkirk leur parlait de l'au-delà, qu'il leur parlait de sa tombe et leur disait de regarder sa montre, qu'il leur envoyait un message grâce à elle.
Le jury ne délibéra que pendant 3 heures.
Will the defendants rise?
Le 18 novembre 1982, il trouva Michael et Patrick Poland coupables de meurtre. Le juge condamna les deux frères à la peine de mort pour la seconde fois. À nouveau, les accusés firent appel de cette décision.
C'est une des rares occasions où l'affaire s'est retrouvée devant la Cour suprême des États-Unis. Dans un jugement public, un jugement partagé, la Cour suprême a soutenu leur condamnation et leur sentence.
Patrick Poland, qui n'avait maintenant plus rien à perdre, accepta de révéler exactement ce qui s'était produit aux enquêteurs et aux familles des victimes. En 1987, il avoua ses crimes à l'agent spécial Frank Mowry.
Ils avaient passé près d'un an à suivre le fourgon et connaissaient son itinéraire par cœur. En tout cas, ils connaissaient l'itinéraire le jour où les gardiens se rendaient à Prescott pour remettre de l'argent aux banques de cette ville. Ils savaient à quel endroit ils s'arrêtaient, combien de fois ils s'y rendaient et le temps que ça prenait. Ils savaient tout.
Les Poland utilisèrent une autre voiture que la leur pour commettre le vol. Ils en louèrent une et réglèrent la note en liquide. Le FBI avait été incapable de la retrouver.
Au moment de l'enquête, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'une voiture louée.
Melvin McDonald, procureur fédéral.
Lorsque nous l'avons constaté, l'entreprise de location l'avait probablement déjà louée 200 fois. Nous n'avons jamais pu savoir avec certitude quelle voiture avait été utilisée pour commettre le vol.
Les frères installèrent un gyrophare sur le toit et posèrent une plaque d'identification semblable à celle du service de sécurité publique de l'Arizona. Ils préparèrent ensuite l'équipement dont ils auraient besoin pour faire le coup. Les Poland attendirent plus d'une heure. Le fourgon était en retard sur son horaire habituel. Finalement, les deux frères virent leur proie approcher. Patrick était au volant de la fausse voiture de police et Michael se cachait sous le tableau de bord. Ils forcèrent le fourgon à se ranger sous prétexte que les gardiens avaient fait un excès de vitesse. Pareil cas, la politique de l'entreprise était stricte. On ne devait jamais ouvrir les portes du fourgon, même si la police obligeait le véhicule à s'arrêter. Patrick ordonna au conducteur de descendre du fourgon. Le conducteur et son collègue ne tinrent pas compte de la procédure et se mirent ainsi dans un état de vulnérabilité. Les Poland obligèrent alors les gardiens à monter à l'arrière du fourgon. Michael se mit au volant pendant que Patrick conduisait la voiture. Mais lorsque Patrick partit, le fourgon ne le suivit pas. Cela expliquait la présence des traces de pneus devant l'endroit où le fourgon s'était arrêté. Lorsque Patrick arriva enfin à l'arrière du fourgon, Michael frappait les gardiens. Les deux frères mirent les gardiens KO avec leurs armes à impulsion. Ils partirent ensuite, chacun au volant d'un véhicule, dans le désert près de Bumblebee.
Pat.
L'un des gardiens semblait être mort des suites des coups reçus. Michael décida alors que l'autre gardien devait mourir lui aussi. Il avait apporté un garrot de sa fabrication dans sa poche, une corde attachée à deux morceaux de bois.
Nous avons découvert que Michael était le planificateur de toute l'affaire, l'instigateur, celui qui imposait sa loi dans ce crime.
Agent spécial Frank Maury.
C'est lui qui avait assassiné les deux gardiens. Patrick, bien sûr, l'avait aidé, pressé par son frère. Mais c'était Mike qui avait mis la corde autour de leur cou pour les étrangler.
Selon Patrick, Michael avait enterré le plus gros du montant d'argent volé dans le désert. Une des membres de la famille Portland savait où se trouvait cet argent. Comme elle accepta de collaborer avec la police, elle ne fit pas l'objet de poursuites pour son implication dans l'affaire. Soumis aux éléments depuis autant d'années, les billets avaient pourri. Les aveux de Patrick permirent de mettre un point final à l'affaire.
Nous disposions de presque tout ce que nous voulions savoir. Nous nous sentions mieux, évidemment, du fait que le criminel était passé aux aveux, parce qu'il nous reste toujours un doute tant qu'on ne l'a pas entendu de la bouche même de l'auteur du crime.
La cour a rejeté toutes les demandes d'appel des Poland. L'État de l'Arizona a fait administrer une injection létale à Michael Poland le 16 juin 1999. Après s'être vu refuser tous ses appels à la clémence, Patrick Poland a été exécuté 9 mois plus tard, soit le 15 mars 2000. Contrairement à son frère, Patrick s'est servi de ses derniers moments pour exprimer ses regrets d'avoir causé tant de peine et de souffrance aux victimes et à leurs familles.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Michael Martin et Mark Marabella. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agasson. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.